tous ensemble d'entourer la parole de Dieu maintenant. Et nul doute que c'est elle qui va nous entourer. C'est elle qui va nous élever dans sa richesse. C'est elle qui va nous amener la lumière. C'est elle qui va nous transporter dans son enseignement et dans son instruction. Nous n'en doutons pas. C'est David, dans le psaume 119, qui dit « Ta parole est plus précieuse pour moi que 1000 objets d'or et d'argent. » Et un peu plus loin, il dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Et Jérémie, de son côté, dans le chapitre 15 de son livre, dit « Ta parole, je l'ai mangée. Je l'ai trouvée, je l'ai mangée, et elle a fait la joie et l'allégresse de mon cœur. » Et Paul, l'apôtre, un peu plus pragmatique, va dire à Timothée « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, convaincre, corriger et instruire l'homme et la femme de Dieu. » Alors quand Paul dit ça, il fait allusion à quelle écriture? Évidemment, nous disons la Bible tout entière et nous avons raison de le dire. Mais à cette époque-là, c'était que l'Ancien Testament qui était écrit, qui était reconnu. Le Nouveau Testament était en train d'être élaboré, notamment par Paul. Mais les premiers chrétiens n'en connaissaient pas un mot de ce Nouveau Testament. Donc quand on leur disait l'Écriture, c'était l'Ancien Testament. Toute Écriture est inspirée de Dieu. L'Ancien Testament est inspiré de Dieu et utile. Et nul doute qu'aujourd'hui, il va nous parler, même si l'histoire que nous allons lire est vieille de 4000 ans. Est-ce que tu crois dans ton cœur qu'elle est capable de t'apporter quelque chose de la part de Dieu? Est-ce que tu crois dans ton cœur que ta journée ne se terminera pas sans que tu aies l'occasion de la pratiquer 4-5 fois dans ce que tu vas entendre? Il faut de la foi. Mais la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Alors nous allons faire une prédication textuelle en prenant un texte de la Genèse. Je vous l'ai dit, c'est vieux de 4000 ans. Et faites venir la foi dans votre cœur par le verset que je vous ai dit tout à l'heure pour que vraiment elle soit efficace pour vous. Alors, je vais demander à ma sœur d'afficher le texte. Donc aujourd'hui, pas de PowerPoint, prédication à l'ancienne, mais la lecture de la parole va s'afficher. Voilà, et je vais la lire dans la version dite à la colombe, qui est là, mais je vais la lire en face. Vous avez derrière moi le texte. Alors, c'est Genèse, chapitre 12, dernier verset, ma sœur. Et puis tout le chapitre 13. Voilà. Non, ça, ce n'est pas le dernier verset du 12. C'est le verset 12. Mais il me faut le chapitre 12, le dernier verset. Voilà, ça va venir. Ah, c'est un peu petit. C'est pas grave, je vais vous le lire. Non, c'est pas ça encore. Allez, ne t'embête pas, on va le lire. Verset 20 du chapitre 12. Le pharaon donna l'ordre à ses gens de le laisser partir, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Lui, c'est Abraham. Donc là, on peut mettre le chapitre 13 au premier verset. Abraham remonta d'Égypte vers le Négeb, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot l'accompagnait. Abraham était très riche en cheptel, en argent et en or, et il se rendit par étapes du Négeb jusqu'à Bethel. À l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment, Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui accompagnait Abraham, avait aussi du petit, du gros bétail, ainsi que des tentes. Et le pays était insuffisant pour qu'ils restent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient rester ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et des bergers des troupeaux de Lot. Les Canaïens et les Phéréziens habitaient alors le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait pas, je te prie, de dispute entre moi et toi, entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays est devant toi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement irriguée, avant que l'Éternel détruise Sodome et Gomorre. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit donc pour lui toute la plaine du Jourdain et partit vers l'est, et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Et Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes en direction de Sodome. Et les gens de Sodome étaient fort mauvais et pécheurs envers l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, « Lève donc les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et vers le midi, vers l'est et l'ouest. Car tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi et à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance comme la poussière de la terre, de sorte qu'on ne pourra pas plus la compter que l'on ne peut compter la poussière de la terre. Lève-toi, parcours le pays en long, en large, car je te le donnerai. » Et Abraham dressa ses tentes et vint habiter aux chênes de Mamré, à côté d'Hébron. Il bâtit là un autel à l'Éternel. Amen. Alors, pour bien comprendre ce chapitre 13, il faut envisager d'aller dans le contexte du chapitre 12. J'en suis désolé, je ne vais pas le lire parce que c'est trop long, mais je vais vous le résumer brièvement. Dans le chapitre 12, nous avons un homme qui est appelé au règne de Dieu, appelé au royaume. Donc, vous reconnaissez donc là le thème qui est le nôtre tous ces dimanches. Et Abraham habite à ce moment-là dans une ville très florissante, la ville d'Ur, qui se trouve en Chaldée, qui se trouve dans la basse Mésopotamie, qui se trouve à côté de la ville actuelle de Bassora, en Irak, dans le delta de l'Euphrate et du Tigre. C'est une civilisation assez prospère, assez évoluée. La civilisation des Sumériens, je ne vais pas la développer. Vous allez sur Google, vous tapez « civilisation sumérienne » et vous aurez tous les détails qu'il vous faut. Mais vous verrez qu'Abraham était dans une ville très élaborée, très administrée, un peu comme nos communes ou nos communautés de communes actuelles. Mais l'appel de Dieu retentit. Quitte ton pays, quitte ta famille et va dans le pays que je te montrerai. Ça, c'est l'appel de Dieu à son royaume. Il faut dire que cette civilisation sumérienne était marquée par l'idolâtrie, une grande idolâtrie. Et on adorait le soleil, on adorait la lune, on adorait plusieurs dieux, un peu comme les Égyptiens, un peu comme les Romains. Mais Dieu ne veut pas de concurrent. Dieu veut être le seul. Et donc, pour ce faire, il ordonne une séparation. Et c'est bien d'envisager l'appel de Dieu dans nos vies, lorsque nous nous convertissons, lorsque nous nous envisageons de vivre avec Dieu, sous cet angle de la séparation. Ce n'est pas populaire, j'en conviens. Peut-être qu'il y a des cheveux qui vont s'hérisser, mais la séparation fait partie du plan de Dieu. Dieu veut nous séparer. Dieu veut nous sanctifier. Le mot sanctifier, c'est mettre à part. Et la pleine révélation de ce que Dieu est ne pouvait pas se faire dans un contexte sumérien. Et Dieu appelle Abraham, et c'est là qu'il lui faut la foi pour sortir. On raconte l'histoire d'un jeune homme qui, bien qu'ayant entendu parler de Dieu, vivait dans le monde. Il s'était fiancé avec une jeune fille très, très charmante, très belle, autant que lui. Et ce jeune homme vint à se convertir, mais vraiment, à accepter Dieu dans sa vie. Et évidemment, cette découverte, il la partage à sa bien-aimée, qui pour le coup n'avait rien voulu savoir de Jésus, en qui son fiancé croyait. Et après une, deux, trois, quatre tentatives, ce brave jeune homme s'est posé des questions. Est-ce que je dois continuer ? Et il s'en est ouvert à quelqu'un de son église, qui lui a dit « Mais oui, continue, tu verras, il finira bien par se convertir. » Mais travailler dans sa conscience et travailler par l'Esprit de Dieu, il finit par prendre une décision de stopper cette relation. Et voilà que, après quelques mois, quelques années, une jeune fille a suivi le même chemin que lui. Elle s'est détournée du monde et de sa vie païenne. Et les voilà qui se rencontrent et qui désirent fonder un couple pour suivre le Seigneur. C'est une belle histoire que j'ai retenue pour illustrer ce principe de la séparation pour Dieu. Que le Seigneur continue cette pensée dans nos cœurs si nous en avons besoin. Le thème principal de ce message d'aujourd'hui, c'est la convalescence spirituelle. Alors, qu'est-ce que la convalescence spirituelle ? C'est quand la dernière fois que tu t'es retrouvé en convalescence spirituelle ? Je pose la question, chacun de nous y réfléchit, ne regarde ni à droite ni à gauche, comme on l'a fait tout à l'heure, mais pour soi-même, ça veut dire quoi ? La convalescence spirituelle, pour moi, et je vais l'imager par un geste que je vais faire, je vais poser le micro, c'est lorsque ma main gauche se situe en haut, ma main droite en bas, la main gauche, parlant de celle de Dieu, une main chaude, une main rassurante, une main bénie, vient saisir ma main tremblotante, ma main fragile. Et lorsque je choisis de... dans l'épreuve que je traverse ou dans la vie que j'ai de mettre ma main dans celle de Dieu, eh bien, on peut parler de convalescence spirituelle. Alors, j'aurais pu prendre l'exemple de David. J'aurais pu prendre l'exemple de la vie de David, de son péché, de ses péchés. Lisez le psaume 51. Lisez le psaume 32. Et vous aurez vraiment un aperçu de convalescence spirituelle magnifique. Non, c'est Abraham. Abraham, si on parle du chapitre 12, donc, auquel je faisais allusion tout à l'heure, il est composé de 20 versets. Les 10 premiers nous parlent d'un Abraham obéissant, d'un Abraham humble, d'un Abraham soumis, d'un Abraham qui apprend et d'un Abraham qui adore. Quoi de mieux ? C'est parfait. C'est un exemple. Et les 10 versets suivants, nous avons un bien-aimé, pour le coup, qui chute, qui descend, qui s'enferme dans des difficultés pas possibles et qui vient dans un trou de désespoir. Alors, je vais parler de ça. Donc, Abraham quitte Ur. Il fait ses 1200 kilomètres qui le séparent d'Israël et il arrive à un endroit qui s'appelle Sichem. Sichem, c'est au pied du mont Garizim. Alors, Sichem, ça veut dire épaule. Alors là, je vous brandis un petit livre. Il est un peu usagé. Mais il a 40 ans, ce petit livre. Il s'appelle « Tous les noms de la Bible et leur signification ». Alors, pour moi, c'est pas un livre de chevet, mais je m'y réfère très souvent. « Tous les noms de la Bible et leur signification ». Demandez à Olivier, il travaille à Certitude, peut-être qu'il se fait encore, je ne sais pas. Je l'ai acheté en 91, il m'a coûté 15 francs, voilà. Merci beaucoup, Annick. Tu savais que j'en avais besoin. Merci. Et dans l'Ancien Testament, il faut savoir que tous les noms propres ont une signification spirituelle. C'est d'accoutume, Ève, quand elle a appelé son premier enfant, elle l'appelait acquisition, Voilà. Et elle a dit, j'ai acquis un fils de la part de l'Éternel. Mais même avant elle, Adam, quand il a vu sa femme, il a dit, ben, celle-là, elle s'appellera Ève, parce qu'elle est la mère de tous les vivants. Vous voyez, chaque nom porte une signification. Et ainsi, donc, quand vous lisez l'Ancien Testament, c'est bien de savoir le lieu ou le nom de la personne, ce qui signifie. Alors, il y a des noms terribles dans l'Ancien Testament. Vous le savez, hein. Une femme qui était sur le point d'accoucher appelle son enfant Ichabod. Elle venait d'apprendre que l'arche de Dieu était tombée entre les mains des Philistins et elle appelle son fils Ichabod, la gloire est bannie d'Israël. Pas facile à porter comme nom. La gloire est bannie d'Israël, mange ta soupe. La gloire est bannie d'Israël, est-ce que tu veux jouer aux billes avec moi ? Pas facile à porter comme nom. Mais ainsi, dans l'Ancien Testament, les noms ont une grande, grande signification. Et donc, Sichem, pour revenir à notre histoire d'Abraham, ça veut dire épaule. Et épaule, on peut comprendre, en tout cas moi je le comprends comme ça, que la première chose que ce Dieu merveilleux qui appelle cet homme, Abraham, à venir se réfugier auprès du seul Dieu, créateur de la terre et du ciel, eh bien, on peut comprendre qu'ils lui disent « Pose ta tête sur mon épaule. » Et on l'a chanté tout à l'heure, « Il est puissant. » Et quel bonheur de savoir que quand on se convertit, quand on se tourne vers Dieu, eh bien, on pose et on est invité à le faire, à ne pas rester loin, à ne pas rester à côté d'un Dieu qui ne demande qu'une chose, la proximité et la sécurité qu'il veut nous donner. Sichem. Mais il nous est précisé que à Sichem, il y avait un chêne qui s'appelait le chêne de Moré. Alors, Moré. Moré, ça signifie enseignement. Et on comprend que la première des choses que Dieu veut faire avec quelqu'un qui se place sous son règne, dans son royaume, c'est qu'il veut l'enseigner. Et il veut que la personne en question, et c'est toi et moi, bien entendu, nous ayons soif d'être enseigné. Nous ayons soif de le connaître. Nous ayons soif de lire la parole de Dieu. Nous avons lu tout à l'heure, toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner. Et donc, l'Éternel apparaît à Abraham, et là, Abraham construit un autel. Alors, un autel, c'est A-U-T-E-L, hein, c'est pas H-O-T-E-L. Il construit un autel et cet autel sert à adorer. C'est un monticule de pierre, si on peut dire ça comme ça, sur lequel on fait une prière, on fait une louange, on fait une adoration ou on fait un sacrifice. Et donc, voilà, quand on rencontre le Seigneur, quand on se laisse enseigner par lui et qu'on écoute son enseignement, on est conduit très facilement à l'adorer. Le voyage se poursuit et Abraham descend, quitte Sichem et va s'installer dans un endroit entre Bethel et Haï. Alors Bethel et Haï, c'est à côté de Naplouse, en Cisjordanie, pour vous situer la carte, un peu au nord, à l'est de Jérusalem. Évidemment, Bethel. Bethel est formé de deux mots. Beth, qui veut dire maison, et elle, qui veut dire le Seigneur, qui veut dire Dieu, la maison de Dieu. Et Bethel, c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit où il nous faut venir, où il nous faut rester, où il nous faut demeurer, où il nous faut nous laisser rencontrer par Dieu. Bethel, je vais vous l'imager avec le premier chapitre des Éphésiens. On l'a étudié en novembre 2023. Et dans ce chapitre, on apprend ce que c'est que d'être en Christ, d'être près de Dieu. C'est à Bethel qu'il nous faut venir. Je me souviens d'un incident qui m'est arrivé où j'étais jeune, je devais avoir 18-19 ans, jeune converti, et il y avait des problèmes dans notre assemblée. Parlons pas de ces problèmes, mais c'était le contexte. Et c'était une situation difficile, et le Seigneur m'avait conduit, le Saint-Esprit m'avait conduit à me réfugier dans Éphésiens 1. Je ne voulais rien savoir d'autre de ma Bible. Parce qu'ailleurs, j'y trouvais des responsabilités, ailleurs, j'y trouvais des choses que je n'avais pas envie de porter, mais j'étais bien dans Éphésiens chapitre 1. Parce que là, j'y étais tout ce que Christ avait fait de moi devant Dieu. Et c'est là qu'on apprend que dans Éphésiens 1, on est élu. Et je vais les citer, hein, ne vous inquiétez pas, je vais presque tous les citer. J'espère que j'en oublierai aucun. On est élu, on est saint, on est irrépréhensible, on est agréable. Version Darby au verset 5 dit que nous sommes agréables dans le bien-aimé ou dans la faveur de Dieu. Mais nous sommes aussi adoptés. Qu'est-ce que c'est beau d'être adopté, de porter le nom de Dieu, d'être dans sa famille. Réfugiez-vous ce matin dans Éphésiens 1 à Bethel. Vous en avez besoin, vos racines descendent. On est aussi héritier avec Christ. Et on peut continuer en disant que nous sommes scellés du Saint-Esprit. Il faut passer au chapitre 2. On est assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc voilà, Bethel, pour moi, ça représente nos racines qui descendent dans ce que nous sommes en Christ, devant Dieu, par Jésus-Christ. Je parlerai tout à l'heure d'Haï, je le laisse volontairement de côté. Et à Bethel, il y a un autre chêne. Tout à l'heure, c'était le chêne de Moré, mais là, c'est le chêne de Mamré. Mamré, la vigueur, la force. Si tu veux que ta vie chrétienne soit vigoureuse, forte, reste à Bethel, viens à Bethel. Donc, tout va bien pour Abraham. Mais Dieu veut de la réalité dans nos cœurs. Dieu veut voir si ce que nous croyons, expérimenter dans la vie, ça tient bon. Et Dieu va permettre l'épreuve. La famine. Y a-t-il une famine dans ta vie en ce moment ? Notre frère Paul nous a parlé de beaucoup de sujets d'épreuve dans l'Assemblée. Et si je pose la question, c'est que je sais qu'il y a des sujets d'épreuve. Il y a des famines. Famine dans ton assiette, peut-être, je ne sais pas. Mais il y en a d'autres peut-être plus importantes dans notre pays de France. Certainement qu'en ce moment où je parle, tu y mets un nom sur ta famine. Peut-être que tu es seul. Tu es seul. Peut-être que tu es séparé. Peut-être en voie de l'être. Peut-être que tu es malade. Peut-être que, pense à Georges, ton conjoint est malade. Peut-être que tu es en difficulté d'une manière ou d'une autre. Je ne peux pas citer toutes les situations de détresse. Mais c'est une famine. Peut-être qu'un être cher te manque affreusement. Que va faire Abraham ? C'est difficile et ne le jugeons pas. Mais le texte nous dit qu'il quitte Bethel. Et nous ne voulons pas le juger, nous voulons nous laisser instruire de ce qui va se passer. Abraham descend encore, descend toujours, physiquement sur la carte, mais certainement dans son cœur aussi. Il quitte Bethel et se dirige vers l'Égypte. Et là, la Bible nous dit qu'il a peur. C'est pas mal d'avoir peur. Pas un péché d'avoir peur. Mais, et cette peur le conduit à mentir. Ça, c'est plus grave. Et il dit à sa femme, Saraï, dis pas que t'es ma femme. Dis que t'es ma sœur. Parce que, alors, les raisons qu'il invoque, franchement, elles sont pas très belles. Elles sont égocentriques, égoïstes, parce que je serai bien traité si tu fais ça. Il est vrai que c'était un demi-mensonge, parce que Abraham et Sarah avaient le même père. À l'époque, c'était, vous affolez pas, à l'époque c'était autorisé. Ils n'avaient pas encore trop réfléchi sur la consanguinité. C'était autorisé et Dieu ne le sanctionne pas dans l'Écriture, le demi-frère. Donc, quel bel échappatoire. Mais c'était nier sa relation avec elle. C'était un mensonge. La motivation d'Abraham, c'était un mensonge. il n'honorait pas son mariage. Alors, on fait une digression ou on ne la fait pas? On en fait une petite. Est-ce que nous honorons le mariage, frères et sœurs? Je pose la question. La question se pose dans notre société. Est-ce que nous honorons le mariage? L'Épître aux Hébreux nous dit « Honorez le mariage à tous égards ». Est-ce qu'on peut dire que le concubinage, c'est pareil que le mariage? Ah, je sais, j'ai dit un gros mot. Non, ce n'est pas la même chose. Je ne veux pas dire qu'on ne s'aime pas dans le concubinage. Il y a peut-être des concubins qui s'aiment plus que des gens mariés. J'en suis conscient. Mais la parole de Dieu nous dit, au commencement, il n'en était pas ainsi. Je ne veux pas développer ce thème-là, mais retenez cette phrase. Honorons nos mariages et honorons le mariage dans l'Église. Malheureux Abraham, ne sais-tu pas que si tu dis que Saraï est ta sœur, tu la vulnérabilises? Évidemment, elle devient une femme libre. Ne sais-tu pas qu'avec la beauté qu'elle a, c'est une femme très belle, je sais que tu es une femme belle, en plus il lui dit. Ben non, ma pomme, je serai bien traité. Et là, notre ami Abraham, qui avait si bien commencé, il faut le reconnaître, descend. Heureusement, la main chaude de Dieu, rassurante de Dieu, est sur sa vie. Et Dieu permet des circonstances où Abraham va être repêché, miraculeusement. Normalement, c'était un homme mort. Mais Dieu en fait en sorte que le Pharaon, bien qu'en colère, ordonne, et nous l'avons lu dans ce dernier verset du chapitre 12, qu'il soit chassé d'Égypte. Mais c'est un homme meurtri, c'est un homme abîmé, c'est un homme humilié, c'est un homme dans ses petits souliers. C'est ce que nous sommes finalement lorsque nous nous sommes éloignés de Dieu et que nous avons péché. Mais il y a une main souveraine, une main bénissante, qui est au-dessus de lui et qui intuitivement lui montre ce qu'il a à faire. Et ce qu'il a à faire, c'est de retrouver le plus rapidement possible ce qu'il avait abandonné. Et remarquez comme l'écriture est belle. Il se rendit par étapes du Négeb jusqu'à Bethel, à l'endroit où il avait dressé sa tente au commencement, entre Bethel et Haï, à l'endroit où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. En Égypte, il n'y a pas d'autel. Est-ce que je peux le répéter? En Égypte, il n'y a pas d'autel. En Égypte, tu n'auras pas l'occasion d'adorer le Seigneur et d'être proche de lui. Et maintenant, je vais vous faire sourire. Si je devais écrire un livre, rassurez-vous, je pense que je ne l'écrirai jamais, mais si je devais écrire un livre, le titre serait « Entre Bethel et Haï ». Ah oui, vos regards sont très interrogateurs, je le comprends. Tant que vous ne saurez pas ce que veut dire Haï. Alors Haï, il y a un moyen mnémotechnique de comprendre et de se souvenir qu'est-ce que ça veut dire. Vous dites trois fois le nom de cette ville rapidement et vous avez compris. Voilà, là vous en souviendrez. Aïe, aïe, aïe. Parce que Haï, ça signifie tas de ruines. Et je parle sous le contrôle de Chantal, hein. Je ne sais pas où elle est. Haï signifie tas de ruines. Bethel, présence de Dieu, tas de ruines. La tente d'Abraham est au milieu. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire à nos cœurs aujourd'hui ? Surtout pas, j'ai le droit d'être 50% à Bethel et 50% à Aï. Surtout pas ça. Si Bethel représente ce que nous sommes en Christ, Aï représente ce que nous sommes en Adam. Un tas de ruines. C'est dur, hein ? Mais c'est ce que la parole de Dieu dit. Lisez le chapitre 7 des Romains. Misérable homme que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ? Le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas faire, je le fais tout de même. Entre Bethel et Haï représente deux tiers du Nouveau Testament en exhortation. Si vous avez 300 pages dans le Nouveau Testament, 200 représentent le thème de Bethel et d'Haï. Vous voyez comme c'est important. Mais là, Abraham, de là où il vient, il sait, il faut que je me dépêche, il sait que ce que ça veut dire Haï. En lui, il y a les pensées de Bethel, et en lui, il y a les pensées d'Haï. Comme en chacun de nous. L'esprit et la chair. Deuxième test, et c'est ma conclusion. Deuxième test, ce n'est plus une famine, ou c'est une forme de famine. Les bergers de Lot et les bergers de Abraham se disputent. Pas assez de pâturage. C'est la conjoncture. Premier scénario, Abraham est en Haï. Les pensées d'Haï sont dans son cœur. Du tas de ruines, hein, vous vous rappelez. Et dis donc, Lot, viens me voir. Qui c'est le tonton et qui c'est le neveu ? Bon, alors, si tes bergers font 10 km de plus le matin pour trouver des pâturages, c'est pas bien grave. Ça, c'est le Abraham qui n'est pas passé par la croix. Quand je vous ai dit que la journée ne se passerait pas, qu'il y ait quelques occasions où nous mettions en pratique ce que nous entendons ce matin, je ne me trompe pas. Le repas de midi, la sieste, la promenade cet après-midi. Ne vous inquiétez pas, il y aura des situations. Deuxième scénario, toujours Haï. Et dis donc, Lot, viens me voir. Qui à Ur a entendu la voix du Seigneur pour lui dire « quitte le pays » ? C'est toi ou c'est moi ? Alors si tes bergers marchent 10 km de plus le matin pour aller dans leur pâturage. Ça, c'est ce que nous sommes capables de faire, nos réactions dans la chair. Maintenant, et ce que nous lisons dans la parole de Dieu ce matin, c'est que Abraham a dans son cœur les pensées de Bethel.